Lacho Bilo, un documentaire réalisé et produit par Thierry Van Roy.
Si moi je dirais par exemple, je suis en Belgique, je suis né en Belgique, je suis à Tongres, bon. Si je, les gens me disent des tziganes, oui. Si je dis que je suis un tzigane belge, ils sont déçus. Ah ben oui. Comment, un tzigane belge, ça existe ça? Alors, dis non, alors ils vont me dire, je suis tzigane du pays de l'Est, là ils croient plus que tu es tzigane.
Mais ta famille est passée par là.
Ah oui, mais
ils
là.
Ils sont venus de là.
Voilà. Santé. Santé. Santé comme ça c'est déjà fait. Ils veulent que ce soit de la Roumanie, que ce soit de la Hongrie, que ce soit de la Yougoslavie et tout. Alors là, oui, c'est des tziganes. Mais si je vais dire que je suis tzigane belge, c'est pas possible.
Mais il y a quelques années, il était apatride. Hein. Il n'est belge que depuis combien de temps? 4 ans maintenant.
4-5 ans.
4-5 ans déjà maintenant. Il a toujours été apatride. Les tziganes étaient apatrides.
On est emmené
en Belgique.
Ah oui. Quand les gens en Hongrie, par exemple, demandaient aux enfants, vous êtes qui? Les enfants disaient, nous sommes des Romanichave, donc des enfants des Roms. Et c'est resté Romanichel, quoi. Ici, chez nous, on dit maintenant Romanichel, mais c'est un mot qui a du sens, qui a une origine.
Oui, Rome, ça veut dire homme, quoi. Il y avait toujours une femme qui venait, quand on était à Bruxelles, donc après la guerre, donc. Je parle des années 70, une femme qui s'occupait des choses sociales et tout ça. Alors, j'aurais pu devenir belge déjà à cette époque-là. Mais il fallait faire son service militaire, 3 ans de ce destin-là. Tout était prêt. Bon. Voilà, qu'elle dit, voilà, vous allez devenir belge, mais il faudra faire votre service militaire. Et moi-même, mon service militaire, oh là là, je préfère rester comme je suis. Ah bah oui, c'était 3 ans de ce temps-là. Alors je devais signer, j'ai rien fait, j'ai tout laissé comme ça.
Les tziganes n'ont pas de frontières, ça c'est quelque chose qui est vraiment important à dire. Pour eux, les pays, ça n'existe pas, la politique, ça n'existe pas. Et ça depuis des temps... Reculer. Les frontières, c'est pour eux quelque chose qui a été inventé par les autres, les gadgets, comme ils disent. Hein. Ils n'ont rien à foutre. Hein.
Par exemple, nous autres, on va dire, bon, quel est ton toit? Ben, c'est le ciel. Bon, quel est ton drapeau? Ben, c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, tous les villages qu'on passait, on devait aller à la mairie qui devait donner le cachet qu'on passait par là. Et c'était marqué nomade sur le... Ce n'est qu'à part après, petit à petit. Alors on a une carte d'identité d'un an, qu'il fallait renouveler tous les ans. Puis des années après, on a eu la carte pour 5 ans. Alors, les autres, on a eu... Alors, on est toujours resté en Belgique, quoi. Comme pas Patrick, non, il fallait aller... en l'ambassade du pays, avoir un passeport spécial pour apatride,
des visas. En France, c'était
aussi, un problème aussi. Il fallait un visa. C'était très difficile de passer les frontières. Voyager, c'était la liberté, quoi. C'est dans notre nature, quoi. Et on voyageait parce que... Premièrement, c'est parce qu'on était heureux en voyage. Et On se contentait de peu. On voulait pas des grandes choses de luxe, on voulait rien. On voulait notre lot, notre manger, ne pas avoir froid, ne pas avoir faim, être propre, bon, et voyager, voir la nature, quoi. Le soir, qu'est-ce qu'on faisait le soir? On faisait un grand feu. Dehors. On était tous autour du feu. Alors, ils prenaient des instruments de musique, ils jouaient un petit peu, ou bien ils discutaient toute la soirée, donc à partir de 9h du soir, et jusqu'à 1h du matin, et je sais pas bien, moi je dormais, les enfants étaient au lit, et tous les adultes étaient autour du feu, ils racontaient de tout et de rien, quoi, voilà. Alors, il y en a qui prenaient même un morceau de lard, des petites pommes de terre, et mettaient dans un petit barbecue, enfin, ils prenaient des fois une caisse de bière, et se mettaient à côté, et voilà.
Les réunions de famille, parce que comme ils étaient tous disséminés, eh ben, dès qu'il y avait une naissance ou un décès, eh ben, tous ils se rassemblaient, donc ils reprenaient tous le voyage pour se retrouver ensemble.
Oh, mais ça allait vite. Hein. Ben, quelqu'un de la famille allait les prévenir. Hein.
Mais il fallait savoir où ils étaient.
Aussi. Oh, mais ça on le savait toujours. Hein. Ça faisait boule de neige directement.
Même s'ils étaient en voyage.
Ah oui. Puis il y avait des téléphones de ce temps-là aussi, hein, donc c'est pas des portatifs. Hein, bon. Par exemple, quelqu'un qui était. On savait qu'il était près d'une pompe d'essence, derrière une pompe d'essence, ou pas loin d'un fermier, mais il avait toujours le téléphone du fermier, ou bien sûr. Et le fermier allait vertir la famille.
Quand il y avait des longs convois pour se retrouver, il y avait des signes, on laissait les signes sur le chemin.
Comme le scout.
Oui, c'est
exactement
ça.
Pareil.
Mais quel genre de.
Oh, des fois une gerbe de fleurs, ou bien on faisait des branches en flèche, quoi, comme les scouts exactement, pareil. Par exemple, des roulottes qui disaient, les gens disaient, on va encore rester un jour ou deux ici, mais nous partons déjà, nous allons déjà en avant. Alors on ne sortait pas tellement loin, peut-être 5-6 kilomètres, on avait notre place, quoi. Hein? Ouais. Hein? Mais des fois on faisait un peu plus. Mais alors, mais où est-ce que vous allez vous garer? Bon, où? Alors on faisait des signes, quoi, qui voyaient où ce qu'on est garé. Et quand le chemin tournait à droite, ben on mettait la flèche. C'est comme les scouts, en ce moment. Les gens sont un petit peu, comment expliquer ça, méfiants, bien sûr, que dans le temps, par exemple, quand on arrive avec les roulottes dans des petits villages, hein, ben les gens étaient très méfiants. Tout le monde est méfiant de l'inconnu. Hein. Bon, ils voyaient, alors c'est directement. Même aujourd'hui, vous passez dans un village à pied, personne ne vous connaît. Hein, ils sont déjà méfiants, les gens. Ils sont déjà derrière leur carreau, ils regardent. C'est qu'on n'a jamais vu cet homme-là ou cette femme-là. C'est bizarre, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il y a la méfiance, et puis il y avait la méfiance aussi, bon, surtout quand ils savaient que ça, ce sont des tziganes, des bohémiens, ils portaient de tous les noms, quoi. On voyageait avec les chevaux, on arrivait dans les villages. Et bon, on s'arrêtait n'importe où. Lorsqu'on trouvait une place en dehors du village, donc près des lisières des bois ou n'importe où. Donc. Il y avait plusieurs roulottes, plusieurs familles, quoi. Mais nous autres, on avait une seule grande roulotte. Hein. Elle faisait quoi, à peu près 9 mètres de long, quoi. Il y avait deux ou deux fois trois compartiments.
Il y avait des chambres.
Oui. Il y avait des lits superposés derrière ou près de la fenêtre, quoi.
Vous étiez combien?
Alors, l'autre, on était. Attendez que je réfléchisse bien. 6. Dans ma famille, c'était plutôt des musiciens. Ouais. C'était. Par exemple, les. Comment on peut appeler les voyageurs, vraiment, on dit les voyageurs. Eux faisaient souvent des chaises, du canage, enfin tout ça. Ça, c'était vraiment. Nous autres, c'était plus la musique. C'était plus la musique.
Tu dis les voyageurs, ceux qui ne sont pas.
Ceux qui ne sont pas vraiment des pays de l'Est, ni ce ne sont pas des tziganes, quoi. Voilà. On a habité Bruxelles hein, durant la guerre, en 1941.
Vous ne pouvez plus. On ne pouvait plus voyager.
Si, on a voyagé durant la guerre avec les roulottes. J'étais tout gamin, quoi. Mais après, on est rentré dans la ville, parce qu'il y avait aussi les rafles, donc. À l'extérieur, quand ils voyaient une roulotte, c'était dangereux.
Il y a eu des gens de ta famille qui ont été raflés?
Oh oui. Et qui ont été mis au camp, à des camps.
Mais les tziganes ne savaient pas du tout ce qui allait leur arriver.
Oh mais non.
Enfin, les autres non plus, les juifs non plus.
Mais non plus.
À partir d'un certain moment, ils ont quand même compris. Vers...
Mais c'était facile à comprendre du fait que l'armée les a entourés, qu'ils mettaient dans des wagons, et c'était pas pour des, ce n'était pas pour le cinéma. Oui. Ben, il y en a beaucoup qui ont travaillé dans les usines pour les armes, par exemple. Pour faire des cartouches, pour faire des armes, c'est tout. Mais ceux dans les camps, c'était pas pour travailler, c'était pour c'était l'extermination, quoi.
Janetuga, kaime tout kemava, hoskeve tuga, admirosi. Jintavela, vava, untle la main, dan trova an mirosi.
Et comment ça se passait quand la famille arrivait dans un village ou dans une ville pour trouver du travail?
Mais directement, bon, quand on arrivait sur place. Premièrement, ce qui était le plus difficile, c'est d'avoir trouvé la nourriture pour les chevaux. Bon, le long des chemins, il y avait de l'herbe, il y avait aussi, bon, les chevaux pouvaient aller paître avant, tout ça. Et des fois, on demandait à un fermier, qui avait un grand champ, une grande prairie, si on ne pouvait pas laisser galoper le cheval un petit peu dans sa prairie. Bien souvent, elle acceptait. Il broutait un peu l'herbe, bon. Mais on ne restait jamais longtemps, peut-être 2-3 jours. Bien sûr, il y en a qui refusaient. Alors, dans le petit village, je me souviens, c'est du côté de Villevorde, de Capelle op den Bosch, Capelle au Bois, ça s'appelle, il y a le canal là. On est resté là. Et c'était dans les grands arbres, quoi, le long des canals. Et on est resté là. On pouvait rester, nous autres, on pouvait rester, toute notre vie, on aurait pu rester. Les gendarmes passaient, nous autres, on pouvait rester. Parce que tous les petits villages nous aimaient bien, quoi. Il y avait même le fils du bourgmestre qui venait manger chez nous à la roulotte. Et lui, il ne le savait même pas. Et il cherchait toujours après lui. Et puis, nous voilà. On était enfants aussi, donc. On restait tant qu'on voulait, nous autres. Les autres, non. Il n'y avait que nous.
Les autres, c'est-à-dire d'autres tziganes ou d'autres...
D'autres tziganes, hein.
D'autres jeunes.
Quand ils venaient, ils nous rendent visite avec les roulottes. Alors, les gendarmes venaient. Et leur, ils disaient... Oh, mais ils viennent seulement pour 2-3 jours.
Hein. Vous travaillez dans les fermes aussi. Hein.
Ah oui, la moisson. Donnez
un coup de main dans les fermes et tout. Il y avait un rapport entre les gens du voyage et les fermiers. Ils animaient avec la musique et ils rendaient des services saisonniers. Le foin, par exemple. Mmh. Ah, vous travaillez dans...
La moisson, le fermier, de fois, avait besoin d'un coup de main. Le fermier les payait, il donnait de la marchandise, de la nourriture. Quand ils abattaient un porc, bon, ils donnaient un quart de porc à la famille. On était vraiment très bien vus, là. C'est les années 40. Le fermier qui était à côté de nous, donc, qui était à centaines de mètres. Moi, j'allais avec lui sur son cheval. Il avait un gros cheval brabançon, là. Il allait mettre le purin sur les champs. Moi, j'étais sur le dos du cheval, là. Enfin, je me prenais toujours avec, comme ça, quoi. Ce fermier-là, quand on lui demandait... Ou les magasins, les petits magasins, on leur demandait pour acheter des pommes de terre ou des légumes. On avait presque tout pour rien. Ah ben c'est bon, allez, c'est bon. Quand on était bien vu dans un village, vous pouvez être certain qu'on était vraiment chouchouté. Hein, voilà. Mais tout au début, quand on arrivait, bien sûr, les gens étaient méfiants. Mais il y a aussi, il faut dire que il y en avait aussi qui venaient là, qui n'étaient pas des anges. Hein. Bon, et je comprends les gens aussi du village, que quand ils voient arriver, on est là encore une fois. Hein. Mais maintenant, ces gens-là commettaient des vols, par exemple, qui venaient. Mais je les comprends de ce côté-là, parce que du travail, ils n'en recevaient pas. Tout le monde se méfiait d'eux. Parce qu'autre, c'est des gens, attention, c'est des tziganes, oh là là. C'est pas ceux-là qui vont travailler dans mon établissement. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire pour finir? Ils faisaient bien des petites choses qu'ils pouvaient vendre ou n'importe quoi, mais ça marchait pas toujours. Hein. Alors, une famille, qu'est-ce qu'elle avait besoin de la nourriture? Il y en a qui allaient de porte à porte demander la nourriture.
Quoi, les femmes faisaient beaucoup de porte à porte.
Voilà.
Colporter, ça c'était voilà. Beaucoup.
Ouais, ouais, la bonne aventure.
Des objets, des fleurs.
Et voilà. Mais ils devaient faire quelque chose. Et, dans les... et quand ça n'allait pas du tout, que la famille avait faim, qu'est-ce qu'ils devaient faire donc? Il ne fallait pas les laisser mourir de faim. Alors, il y en a qui allaient le soir, ils partaient pour prendre quelques poules. Mais c'est ça, dit les voleurs de poules. C'était pas un mal, c'était parce qu'ils avaient faim, quoi. On leur donnait pas de travail, on leur donnait rien. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était pas des agressions violentes, rien du tout. Mais non.
Mais les cimetés, si je peux me permettre, sont des tziganes qui échangent leurs services. Normalement, ils volent pas du tout. Hein. Ce sont des gens qui travaillent, soit ils jouent de la musique. Ben, ton frère, à un moment donné, il a aiguisé des couteaux. C'est vrai que quand on les rejette et qu'ils ont faim, ben, forcément, ils vont prendre une poule ou l'autre. Quoi. Je le ferai aussi. Hein,
c'est pas un vol, ce n'est pas un vol parce que je vais voler. Hein, c'est un vol parce que c'est un besoin, quoi, parce qu'ils n'ont rien. Je crois que n'importe quel homme ou quelle famille sait que s'ils ont vraiment faim, ben, ils tenteraient n'importe quoi pour manger, quoi. Alors, bon, ils vont dans les magasins. Ils n'ont pas d'argent pour payer la... Bon, forcément qu'ils vont prendre quelque chose, qu'ils mettent dans la poche, qu'ils partent parce qu'ils n'ont rien à payer. Et voilà.
Vous êtes arrivé que vous ayez eu faim dans la famille?
Oui, on a déjà eu faim. C'est-à-dire qu'on s'est toujours bien débrouillé. Bien débrouillé parce qu'on était dans les roulottes. Et on, en somme, on a vécu beaucoup aussi... heureusement, par des fermiers également, qui donnaient un coup de main. Et comme musiciens, on était mieux vus. Parce qu'on allait dans le petit village, au café, le petit bistrot populaire. Mais de ce temps-là, celui qui avait une radio, c'était déjà un pub d'aujourd'hui. C'était un bistrot comme il faut. Il y avait une grosse radio, mais un petit cube, c'était déjà quelque chose de terrible.
Les
jukebox. Ben voilà. Mais même avant les jukebox, hein. Bon. Mais quand l'orchestre venait, mes frères et mes parents, donc, j'étais 4-5 musiciens, et ils rentraient avec des instruments de musique, étaient gens, un orchestre. C'est comme si une vedette venait d'Hollywood, hein, pour eux, de ce temps-là. Hein. Alors, quand ils commençaient à jouer, toutes les vieilles valses de 7 ans, les gens dansaient, j'étais content. Et le patron, bon, on les invitait à venir le week-end jouer chez lui. Alors que les patrons, il y avait 2-3 bistrots, ils se les demandaient l'un à l'autre. Alors, il disait, non, la semaine prochaine, c'est chez vous qu'on vient. Hein? Alors, le vendredi, samedi, dimanche, on allait faire de la musique. Là.
Et ça rapportait...
De ce temps-là,
bien,
oui.
Vous
oui.
Viviez bien.
Oh, ben oui, parce que tout n'était pas aussi cher non plus. Hein. Comme aujourd'hui, bon. Là, de ce temps-là, l'argent avait de la valeur, de ce temps-là. Maintenant, l'argent n'a plus de valeur. Dans le temps-là, les gens qui voulaient gagner leur vie, ils devaient quand même jouer des airs que les gens connaissent, quoi. Puis chanter un peu avec et danser. Hein. Surtout en Flandre, il fallait jouer des morceaux, des marches, les vieilles marches flamandes et tout ça. Mais ils jouaient les vieilles valses de Vienne, le Danube bleu, enfin tout. Et ces gens-là étaient très contents. C'était leur époque, donc. C'est comme maintenant, leur musique maintenant, avec leur coup de marteau. Bon. Mais oui, à cette époque-là, c'était autrement. Hein.
Et ça, c'était avant, les jukebox?
Oh oui, beaucoup avant.
Et les jukebox, ça a changé quelque chose?
Les jukebox, ça allait encore. Mais le pire, c'était les jeux et la télévision. Les jukebox, ma foi, celui qui ne met pas des pièces dedans n'allait pas, quoi. Et des fois, quand il jouait, bon, il ne mettait pas de pièces dans le jukebox. Alors, il y a un poli qui mettait une pièce, le patron l'éteignait, quoi.
Ça arrivait, ça?
Ça arrivait, le patron interdisait de mettre des pièces. Il éteignait carrément. Parce que il y a des patrons qui étaient vraiment compréhensifs et qui aimaient la musique.
Et la télévision?
Ça a tout foutu en l'air. Parce que, surtout avec les matchs de foot, de tennis ou n'importe quoi, les gens ils rentraient dans un bistrot. Le foot, hein, cette équipe-là contre cette équipe-là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont jouer? Ils gênaient. Surtout des amateurs de sport. Beaucoup de tort.
Ah,
la télévision fait beaucoup de tort, d'ailleurs. Et les jeux aussi, pendant qu'on joue. Alors, tout ce chahut. Moi, je m'avais dit jouer là-dedans, pas possible. La télévision a foutu, les gens ne sortent plus. Ils n'ont plus de convivialité entre eux. Et ils vont pas sortir boire un verre, par exemple. Non, je regarde mon Dallas, je regarde mon feuilleton.
Dallas, c'est fini, voilà. Maintenant.
Non, mais ce soit Dallas ou une autre feuilleton. Les gens ne bougent plus devant leur télé, c'est fini.
Non, c'est encore pire, c'est Internet.
Ah, voilà. C'est la télévision. Internet, ils sont tout à fait esclaves de ça.
Mesdames et messieurs, on demande sur le grand podium Bilot et Cécile. Bilot et Cécile sur le grand podium.
Allez, un peu du calme, s'il vous plaît.
Chers tata et papa, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble pour fêter ton anniversaire. Après 75 ans, tu es toujours joyeux, comique et beau. Nous te remercions pour toutes les années avec toi. J'espère que tu resteras encore beaucoup des années entre nous. Pour tes 75 ans, maman et papa ont trouvé quelque chose pour te rendre joyeux. Il ne faut pas toujours quelque chose de grand, porter quelque chose de grand pour te rendre plaisir. Tu es content avec tout ce qui vient de ta fille et ton beau-fils. Après toutes les années que tu as élevé maman, elle ne saura jamais te le rendre, mais elle sait seulement te rendre joyeux avec ce cadeau. Maman. Regarde vite ta surprise.
Non, non, quand même, on dit que c'est prêt. Et tu ris à la moutache, dis-moi.
Ah, une vague Budapest. Allez.
Un voyage à Budapest pour ce riche.
toi, tu aurais pu faire un autre métier que la musique?
Oui, gangster, mais j'ai pas voulu. La musique, ce n'est pas simplement une tradition. Comme dans les familles bien de la noblesse, on forçait les jeunes à jouer du piano, soit du violon, soit un autre instrument. Tout ça pour des temps. Là, c'était ça, dans la grande bourgeoisie, les enfants devaient apprendre un instrument de musique. C'était contre leur gré. Mais j'étais obligé d'apprendre. C'est pour ça qu'il y a des mauvais musiciens. Les notes sont tous là, mais ce n'est pas de la musique. Chez nous, on ne le fait pas parce qu'on est obligé de le faire. C'est parce qu'on aime la musique. Voilà la grande différence. La musique, c'est... on aime la musique. Ce n'est pas pour dire que je vais en faire un métier. Et eux s'imaginent que la musique n'est pas fatigante. C'est toujours un amusement. Bien sûr que c'est un amusement, la musique. Mais quand on a un engagement, qu'il faut bosser pendant 4 heures, des fois à l'extérieur, des fois à l'intérieur, bon. Mais quand on joue de la musique et quand c'est tous des mélomanes qui vous écoutent, c'est les nerfs qui prennent un coup et le physique, hein, attention. Toutes les musiques du monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils vont retomber dans du bar. Il n'y aurait pas, même la musique moderne d'aujourd'hui, il n'y a que le rythme qui change, mais ils vont tomber automatiquement dans bar. Maintenant, un compositeur d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va composer aujourd'hui? Il faut le faire, composer quelque chose aujourd'hui.
Non, s'il y a des compositeurs.
Mais oui, mais Cécile, tu ne comprends pas. Ils vont composer, ils vont tomber dans quoi pour finir? Des passages, vous dire, ah, ça c'est du Mozart. C'est comme les Beatles, c'est pareil. Tout ce qu'ils chantent, tout ce qu'ils font, c'est du Bach. À leur façon. La vraie musique ensemble, c'était quoi? C'était le classique. C'est une religion, bon, elle est aussi. Tout ce qu'eux disent, c'est l'Ancien Testament, donc. Toute la Bible, tout ceci.
Ça s'apparente au protestantisme.
On connaît tout ça. Et de ça, eux en font un. Vous savez, vous allez.
Une secte.
Ben oui, c'est une sorte, si on peut dire une secte. Mais pour certains, c'est bien. Ceux qui ont beaucoup bu, qui sont alcooliques, ils changent de vie, ils deviennent bien. Ils ont besoin de quelque chose, ils vont tous s'entraider pour qu'il ait une voiture, une caravane.
Oui, c'est vraiment une protection pour...
Pour ceux-là, oui.
Pour les tziganes. Actuellement, c'est la seule chose qu'il y a qui protège les tziganes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est de l'endoctrinement. Hein, donc, ils perdent leur liberté. De toute façon, ils n'y croient pas, hein, parce que, je veux dire, ils gardent leurs convictions entre eux. Mais bon, ils rentrent dans le système, parce que c'est un moyen d'avoir... de survivre, quoi, et de vivre dignement. Donc, vie et lumière est utile.
Par exemple, aussi, bon, j'en connais. C'est à peine qu'ils s'affligent, ils sont pasteurs. Ils sont vite pasteurs à moi-même, je dis, hein. Alors, c'est bien, ça. Mais, comme pasteur, ils ont un peu plus d'argent. Alors qu'un prêtre, il fait des 5, 6 ans, 10 ans d'études, de philosophie, de ci et de ça, et des savoirs, et de ci et de ça. Eux, deux jours après, ils sont pasteurs. Bon.
Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les tziganes sont très crédules, très candides, très... Ils croient bien, parce qu'ils croient à la bienveillance. Les tziganes croient vraiment à la bienveillance. Et donc, en fait, ils se font influencer par cet organisme qui les éloigne des institutions catholiques, parce que c'est surtout ça aussi. Et quelque part, heureusement, parce qu'ils se rassemblent autrement, ils sont, Vie et Lumière respectent leur mode de vie, respecte plein de choses, c'est vrai, il faut des choses
ouais,
de raison.
Bah ouais.
Il y a plein de tziganes qui vivent dignement grâce à Vie et Lumière. Donc il y a le pour et le contre. C'est une aide dans cette société qui est très dure pour eux, Vie et Lumière. C'est une solution pour eux. Ils ont beaucoup à gagner, hein. Parce que là, ils sont encadrés. Ils aiment le mysticisme. Donc ils aiment bien avoir...
Ils sont soutenus, quoi.
Oui, ils aiment bien les évangiles. Il leur faut Jésus. Il leur faut vraiment toute cette structure.
Et puis ils sont soutenus.
De leur croyance.
Ils ont besoin de quelque chose.
Ils ont de l'argent. Ils reçoivent des tas de choses par la solidarité. Ils ont du boulot. Et voilà, mais ils sont terriblement encadrés et endoctrinés, quoi. Mais l'endoctrinement, c'est d'abord une rupture avec l'Église catholique. Moi, je parle, mais j'ai aucun jugement là-dessus, absolument aucun. Ben, disons que là-bas, on leur dit qu'il ne faut plus faire confiance aux rachailles, donc aux curés. Hein. Il ne faut plus avoir de statut, de vierge, etc. etc. Il faut rester entre nous, il ne faut plus boire, il ne faut plus fumer. Et alors, il y a des séances, des sortes d'exorcisme, quoi, contre la maladie. On a été quelquefois, oui, on a souvent été. Et comme eux, ils sont très crédules et très mystiques, eh ben, ça leur donne ce qu'ils ont perdu avec cette société. Ils y trouvent leur compte, quoi. Ils y vont tous, de plus en plus, hein.
Et crédules, ça voudrait dire qu'en fait, ils n'imaginent pas le mal.
Non, ils sont très
tellement... Non,
ils n'imaginent pas le mal.
S'il n'y aurait que les tziganes qui volent, ça serait bien.
Bon, écoutez, moi je trouve franchement que les tziganes sont beaucoup moins corrompus et beaucoup moins voleurs que les non-tziganes. Non, je ne parle pas de la population, hein, mais je parle de ce qui nous dirige.
Des fois dans les journaux, on voit aussi des gitans qui ont tué quelqu'un, qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais en général, ce n'est pas des tziganes, en général. C'est soit des forains qui se font passer pour des gitans, des tziganes, et c'est pas vrai du tout. Ah oui, les barraquis aussi.
Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de problèmes de drogue et d'alcool ?
Mais c'est dans le monde entier maintenant. Les gens.
Mais oui, c'est peut-être les plus fragiles.
Oh oui, c'est un fléau, parce que. Surtout ceux qui ont les plus pauvres, par exemple. C'est ceux-là qui ont les plus grandes misères. Il n'en faut qu'un qui leur dit, écoutez, un type qui vend de la drogue, écoutez, si vous apportez cette drogue-là, là, vous aurez tant et tant, ils vont le faire. Ils ne savent même pas quel danger qu'ils courent. Ils n'ont pas d'autre solution. C'est mondial, c'est le fléau mondial, il n'y a rien à faire. Et les gens sont démoralisés, ils n'ont plus de morale, ils sont démoralisés à 100%. Et...
Les gens en général ou les tziganes ?
Pas les tziganes, en général, hein. Faut pas être tigane pour ça.
Je l'aime, je l'aime. Lungo le dromenza. Maladile.
Mais la jeunesse d'aujourd'hui des tziganes, ils sont influencés par les autres. Il n'y a rien à faire. Ils sont uniquement influencés à cause de quoi ? C'est l'argent.
Et Internet.
C'est l'argent. Mais on veut les détruire de cette façon-là avec l'argent. Donc, on veut les détruire.
Qui
la société. Hein. Et ils reçoivent de l'argent, on leur promet, allez, taisez-vous. Allez, faites ce qu'on vous dit. On les achète, quoi. On les achète, et puis c'est tout. Toute la cause de tout ce qui arrive, c'est l'argent. On va proposer à quelqu'un de dire, écoute, fuis ta famille, je te promets de l'argent, ou n'importe, fais n'importe quoi, demande que tu as de l'argent, et voilà, c'est fini. Et les traditions, écoute, on n'essuie plus ça, c'est archaïque, écoute ça, écoute, fais ceci, fais cela, il va te payer, et voilà. Et pour l'argent, il va faire n'importe quoi. Pourquoi pouvoir se payer ce que les autres ils ont ? Surtout qu'ils sont déjà rejetés, qu'ils n'ont déjà pas d'argent. Alors, ils tombent sur des gens qui ont plein de fric, ils leur proposent n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils se foutent dans le piège, hein, il n'y a rien à faire. Et quand ils ont cet objet-là, 8 jours après, ils en ont marre. Ils veulent déjà autre chose.
Oui, c'est ça.
C'est comme ça. Ben oui.
Traditionnellement, un tzigane ne possède pas grand-chose, en fait.
Mais il ne possède rien, en général. Il ne possède rien. Mais dès qu'il possède quelque chose, ah, parce que je n'avais pas ça avant, il ne faut pas que je devienne au même point que j'étais. Et voilà, alors il veut de plus en plus, et c'est fini. Et il va à la catastrophe, il va à la dérive, quoi. Et après, je tombe à zéro, c'est encore pire. Plus haut qu'on monte sur l'échelle, le plus haut qu'elle est, quand on tombe, ça fait mal. Hein. Ben oui. C'est lui qui possède. Et c'est lui qui veut acquérir, ça rendra malheureux. Pouvoir, c'est comme quelqu'un. Si j'ai envie de faire un crédit pour acheter une toute nouvelle voiture et que je n'ai pas les moyens, je vais serrer ceinture jusqu'à la fin du mois pour que je puisse payer ce que je veux réservable au crédit. Comment est-ce que je vais vivre? Il ne faut pas faire les riches quand on les poches vides. Hein.
Il adore les voitures.
Oui, mais j'adore les voitures, mais ça ne va pas ça, je suis esclave des voitures, parce que tu... Mais les voitures que moi j'ai, c'est des voitures à 500 euros, quoi. C'est pas un million.
Il ne peut pas changer tous les 3 mois parce que... Hein,
une fois que le moteur ne va plus, je prends une autre occasion. Et voilà. Dans le temps, un cheval, quand on tirait la roulotte, c'était un ami, quoi. Hein? On le caressait, il était gentil, c'était humain, et il manquait que la parole. Et encore, quand on poussait la roulotte avec lui, on l'aidait. Il faisait partie vraiment de la famille, mais une voiture. Tu les vois avec une loque toujours hein, nettoyer.
Tu nettoies jamais ta voiture.
Ben, il fallait brosser le cheval quand même.
Ben, bah, encore. Oh. Une maison, c'est quoi en somme? C'est 4 murs, un toit. C'est un plancher, tant mieux. Bon, des vitres. Toute leur vie, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont dans ces 4 murs qu'ils peuvent nettoyer sans arrêt. Ben, forcément. Ça doit être propre. Hein? On dort dans la moitié de sa vie. Bon, qu'est-ce qu'on a encore?
Mais on dort dans la maison, quoi.
On dort dans la maison. Hein? Mais c'est le moyen de quelque chose, c'est que, bon, les gens qui ne bougent plus du tout, qui sont là, sont esclaves de leur propre bien, quoi. Il y a beaucoup de business qui rapportent, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils rapportent? Absolument plus rien du tout. Ce qu'ils rapportent aujourd'hui, c'est d'être médecin généraliste, pharmacien, mais oui, pharmacien, ou bien un métier bon, dans les affaires diplomatiques, tout ce qui est militaire, et toutes ces choses-là. Ça, voilà, c'est ce qui rapporte aux gens. Mais un métier manuel, comme il y avait dans le temps, être un bon menuisier, ça compte plus. Ça compte même plus d'être un bon menuisier, parce que les gens achètent tout du... Ikea, alors. Gardien ne veut pas dire du racisme, gardien ne veut pas dire un étranger. Gardio veut dire quelqu'un qui ne fait pas comme nous, qui n'a pas la même mentalité, pas les mêmes lois, pas les mêmes... Mais pour eux, un gardio, c'est quelqu'un qui parle cru.
C'est-à-dire?
Il emploie des mots, crus, comment on appelle ça?
De l'impudeur.
De l'impudeur, tout ce qui ne correspond pas à une sagesse, quoi. Mais par exemple, il parle, comme ici, il parle de n'importe quoi, il parle de leur sexe, de leur fiancé, ce qu'ils font, ils s'embrassent dans les rues, ils s'embrassent devant les parents, avec, ils font des manières impudiques devant les parents et tout ça. Toi? Et il parle de... Parler cru, ça veut dire parler vulgairement, voilà.
Il y a des choses dont on ne parle pas? Les tziganes, notamment tout ce qui est fait autour du sexe ou des sentiments.
Voilà, ça on parle pas.
Parce que ça, c'est inutile. À quoi ça sert-il de dire des choses pareilles alors qu'il y a tant de conversations bien plus intéressantes? Mais ici, vous allez sortir n'importe où. À peine qu'ils font pas l'amour dans le bistrot, quoi. Devant les gens, quoi. Bon. Tu peux t'embrasser sur la joue, pourquoi pas, mais là, ils s'embrassent plus. Hein, c'est... Hein? Ça n'est plus s'embrasser, ça, quoi.
Si je raconte des choses que moi j'ai vécues dans la nature, ils vont dire, mais il n'est pas normal ce type. Là, tu n'oses même pas le dire. Alors pour finir, je me souviens très très bien que moi il m'est arrivé dans pleine nature, dormir dans une tente, et m'étirer par les pieds. Hein. C'était une drôle d'impression.
Quoi, des sortes de delphes ou des créatures
ou... Des créatures, je ne sais pas. C'était en dehors du village. Et il y avait un petit chantier de gravier qui allait dans les champs. On était là avec la caravane. Je parlais il y a peut-être 40 ans. 45 ans. On faisait un feu dehors. Et la nuit, on entendait marcher sur le gravier. Des pas d'homme, hein. Il y a quelqu'un qui passe. Comme ça, plusieurs fois la nuit. Bon, le feu s'éteint. On va aller tous se coucher. Et moi, je dormais dans une tente, et fatigué, et j'avais ma petite nièce qui était avec moi. Elle avait une dizaine d'années, comme ça. Et j'ai bien fermé l'entrée de la tente et tout, et ma petite nièce dormait. Et moi, j'étais là, et j'avais mis mes pieds contre la bêche.
Contre la toile?
La toile, oui. Comme ça, peut-être un bon quart d'heure après. Mais on ne se sentait pas des doigts. Hein. C'était des pressions, comme je disais ça.
Quelqu'un qui serrait.
Oui, mais tu ne sentais pas les doigts. Je ne sais pas expliquer ça. Comme... Mais, c'est ça, je dis encore. Un qui me fait une blague là-dehors. Hein. Tu sais quoi, hein. C'est comme pas normal, je ne sens pas de main. Je devais me tenir, j'étais dehors. Comme ça, hein, ça tirait. Je me lève et je frappe contre la toile. Je crois que c'était peut-être une bête ou... Pas normal. Je me remets de nouveau. Et comme je me couche, je dis, j'ai un peu attente. J'ai attendu. Rien. Ma petite nièce, elle avait sa tête contre la toile. Hein. Elle avait de longs cheveux. D'un coup, elle crie. On me tire par les cheveux. Alors, moi, j'étais saisi. On est sorti en dessous de cette tente-là, je ne sais plus comment. Tout le monde debout. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en a de la famille qui dormait dans leur voiture aussi, les breaks comme ça aussi. Et on avait deux grands chiens, là. Ils ont aboyé, ils ont couru après quelque chose. Mais quoi, on ne sait pas. Ils sont revenus même une demi-heure après, épuisés. Et ma petite nièce, elle a dormi dans la caravane. Et moi, je voulais rentrer dans la tente de nouveau. Mais, hein. Et mon frère dit, non, c'est pas bon, fais pas ça. N'insiste pas, ne te montre pas trop fort, parce que tu sais jamais. J'ai dormi avec eux dans la voiture, serré comme des sardines.
Elle parle des esprits et du moulot, des cimetières et tout ça.
Mais voilà, le moulot, ça veut dire le mort. Hein. Le fantôme, tu peux dire le fantôme, le moulot. Le lendemain, le matin, vers 10h, 9-10h, il y avait au petit village, il y avait une petite épicerie. On va à la petite épicerie, prendre quelque chose pour déjeuner, quoi. Tout bêtement, on parle comme ça de... Vous savez, messieurs, il y en a toujours quelqu'un sur le gravier qui marche, et cette nuit, c'est sûr. Ah, bah oui, on le connaît. Ça, c'est le comble. Ah, nous le connaissons. Une fois 10h30, on ne passe plus par là, nous autres. C'est comment? Bah oui, je sais qu'il dit... Des fois, on marchait, il nous suivait derrière. Et vous le connaissez. Mais c'est pour dire comment c'est des fois, hein, dans la nature. Il dit, c'est un garçon qui dit, vous voyez la grande rue, après on avait vu une grande rue, une pelleuse comme ça, une grande, il faisait des travaux plus loin. Il y a un mois, il a reçu un coup de la pelleuse, il est mort. Oui, alors, eh bien c'est lui. il est mort accidentellement, et c'est lui qui marche là le soir. Maintenant, beau à croire ou pas croire, on n'y attendait pas que les gens du magasin nous le disent à nous-mêmes. Alors on dit, ben oui, c'est sûrement lui qui me tirait par les... C'est pas possible. Il y a des choses dans la nature qu'on... Pour ça, je dis que les citadins ne peuvent pas comprendre. C'est un esprit, il n'y a rien à faire. Et ils veulent pas monter, quoi. Ils veulent rester sur Terre. Ils cherchent quelque chose pour rester sur Terre. Ils veulent pas... C'est pour ça qu'on dit souvent, quand quelqu'un qui est mort, laissez le mort en paix. Ne parlez pas de lui parce que vous le dérangez. Laissez-le monter. Dans le cosmos ailleurs. Autrement dit, vous le captez de nouveau vers le bas. On sait que... On est entouré d'éléments qui nous dépassent même. On sait qu'il y a des choses... Par exemple, on va dire... un éclair, c'est pour quoi faire? C'est inutile, pourquoi? Parce qu'il y a deux nuages qui se forment, ils expliquent. Mais la raison que cet éclair existe... Nous autres, c'est comme ça. Si un mort est parti, bien sûr qu'il n'est plus dans son corps physique, c'est tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'existe plus, quoi. Il est dans le cosmos, il est partout, à la fois. C'est comme tout le cosmos, à mon idée, c'est comme un drap de lit, hein. Bien plat, hein, comme la table, par exemple. Ou des planètes, vous faites ça avec le drap de lit, et voilà.
Un grand nœud.
Voilà. Et tout est présent, tout est compact. Le Big Bang, il y a 13 milliards d'années qu'ils disent. C'est comme si eux étaient déjà là. Bon, je vais dire une chose. Ben oui, ils parlent des milliards d'années comme s'ils étaient là. Bon. Ben, il y a une raison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Big Bang, nous autres, on y était déjà, c'est étincelle. On fait partie du Big Bang. Donc, ils ne nous apprennent rien.
Le temps et l'espace sont des intuitions pures. C'est Kant qui a dit. C'est inventé par l'homme. Hein? On est tous d'accord là-dessus. Hein?
C'est comme maintenant, on va dire, c'est des ondes, bien sûr. La télé... Vous voulez changer de programme. Avant, il fallait se lever, il fallait appuyer. Bon. Maintenant, vous faites... Tchic. Bon, mais comment ça se fait, ça? Que ça change comme ça de... Tac. On ne la voit même pas passer. Bah, ça change les programmes. C'est même bizarre. On peut expliquer, ce sont des ondes. Bon, mais ces ondes, il faut leur expliquer comment ils doivent faire. C'est comme le feu. Vous allez mettre deux feux ensemble, hein, l'un à côté de l'autre. Ça va brûler à fond. Vous les mettez tous les deux ensemble, ça ne fera qu'un feu, mais ils ne vont pas se brûler. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Le feu ne se brûle pas. Il y a des gens qui me parlaient du voyage, des tziganes, et la musique. Et des personnes me disaient, des gens m'aiment très bien, donc ils disaient, oh, que j'aimerais quand même avoir votre vie. Une vie pareille, je me la souhaiterais. Hein? Je dis, mais faites-le alors. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Ah, mais nous travaillons. Ben oui. Puis, écoutez, vous croyez que toujours est rose, parce que c'est tzigane au voyage. L'hiver et tous les intempéries, il faut l'été. Et les maladies aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est tzigane qu'on ne devient pas malade. Hein. Hein. Il faut aussi supporter. Et des fois, Aznavour le dit bien dans sa chanson, un jour sur deux, on mange. Il faut aussi supporter, je dis, hein, si on n'a rien mangé. Là, ils sont refroidis. Hein. Ils vont vite dans leur cajibi. Il y a même la télé. Ah, mais oui! Il croit que tout est du rose, hein? Mais ce n'est pas vrai. Ce qui est rose, c'est la liberté qu'on a, quoi. C'est tout. Mais il y a une seule chose que je comprends, que tout le monde voyageait, il n'y a rien qui se ferait non plus. Hein? Bon, si tout le monde serait boulanger, qu'est-ce qu'il ferait donc, hein? Bon, mais il faut des gens comme ça. Mais il ne faut pas être jaloux des gens qui choisissent cette vie-là, quoi. si eux choisissent leur vie d'être sédentaires, qu'ils travaillent, qu'ils ont tout leur petit confort, ils ont tant mieux pour eux. Ils l'ont choisi. Ils ne doivent pas en vouloir à ceux qui voyagent, quoi, qui sont en liberté.
Dans la cuisine de Lacho Bilo, où nous avons essayé de comprendre la marche du monde, il y avait aussi Cécile, son épouse, qui manie aussi bien la guitare que la philosophie, ainsi que Diego, guitariste aussi, pour qui le swing manouche n'a plus de secret. Merci à Cécile, Bilo et Diego, ainsi qu'aux musiciens de la fête d'anniversaire de Bilo. Lacho Bilo, un documentaire réalisé et produit par Thierry Vanroy.